et bienvenue à la radio de la Fondation Queerasio. Je suis Valériane et aujourd'hui dans l'émission de la grande interview, j'ai la grande joie d'accueillir Sébastien Tuller. Alors Sébastien, vous le connaissez certainement, mais je me permettrai de vous le présenter en quelques mots. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors Sébastien Tuller, vous êtes un juriste engagé et un activiste reconnu pour votre défense des droits humains, en particulier ceux des personnes LGBTQIA+. Alors depuis plus de 15 ans, vous êtes bénévole à Amnesty International France et aujourd'hui vous êtes responsable des thématiques LGBTQIA+, chez Amnesty International France. Parallèlement, vous occupez le poste de juriste au Conseil d'État depuis 2018 et en 2021, votre travail a été salué par le magazine Têtu qui vous a désigné militant de l'année et par l'autre cercle qui vous a désigné comme l'un des rôles modèles LGBTQIA+ leader, une reconnaissance qui met en lumière votre capacité à inspirer et à accompagner le changement en milieu professionnel. Vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux, notamment sur X et Instagram, où vous partagez vos combats, vos réflexions, vos initiatives, et toujours avec une approche accessible et militante. Alors entre militantisme, engagement professionnel et parcours artistique, vous utilisez chaque espace pour promouvoir l'égalité. Sébastien, qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans cette lutte pour l'égalité et les droits humains ?
C'est avant tout, merci pour cette présentation, c'est avant tout l'espoir de pouvoir construire un monde meilleur. Je suis convaincu qu'agir avec solidarité, compassion, humanité, ça permet de rendre nos sociétés meilleures. Et j'ai eu la chance, moi, dans mon parcours personnel, de pas subir de graves violences LGBTI-phobes ni de rejet de la part de ma famille. Et je me suis très vite engagé, surtout envers les personnes qui n'avaient pas eu cette chance, dans l'espoir de faire avancer les choses.
Merci pour ça. Vous venez dire qu'effectivement, vous avez eu la chance d'être accompagné, aimé. J'imagine qu'à travers votre engagement, vous croisez des parcours bouleversants. Est-ce qu'il y a une histoire, un moment particulier qui vous a marqué, qui symbolise selon vous pourquoi ce combat est essentiel ?
Il y en a deux même. Il y en a un plutôt professionnel et un plutôt du côté militant à Amnesty. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à militer pour les droits des personnes LGBTQ+, j'ai commencé dans un centre LGBT à Tours. Et j'étais plutôt en charge des permanences d'accueil et d'écoute, de la ligne d'écoute, des personnes qui avaient des questionnements sur leur sexualité, sur leur identité de genre. Et donc c'était quand même un accompagnement et une aide directe auprès des personnes. Quelqu'un venait nous voir parce qu'il avait envie de discuter, d'échanger ou avait besoin d'un accompagnement. Alors qu'à Amnesty, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. C'est un temps qui est vraiment un temps long. Et du coup, parfois, ça peut être très frustrant. Mais je me souviens d'une grande campagne d'Amnesty. Ça commence à remonter déjà. C'était en 2014. Amnesty a fait une grande campagne pour le changement d'état civil des personnes trans en Norvège, mais plus largement pour le changement d'état civil des personnes trans. C'est le droit à l'autodétermination. Et le fait d'avoir fait signer des pétitions pour une personne qui s'appelait John Janet et qui gardait les deux prénoms masculins et féminins collés justement pour dénoncer un peu cette binarité de genre et cette procédure difficile qui entravait le changement d'état civil des personnes trans. Ça a été beaucoup de temps et beaucoup de pétitions, beaucoup de rencontres. Et finalement, quand la pétition a gagné, quand les lois ont changé en Norvège et quand j'ai pu rencontrer cette personne, ça donne tout de suite forcément beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Ça montre qu'on peut vraiment, à travers une simple pétition, changer des vies et changer des lois. Et l'autre que je voulais aussi mentionner, c'était plutôt professionnel, c'est quand j'ai fini mes études, j'étais à la Cour européenne des droits de l'homme et c'était le ramadan, on avait des collègues qui faisaient le ramadan et qui nous avaient invités à une rupture du jeûne à la mosquée turque à côté de Strasbourg. Et effectivement, c'était plein de paradoxes parce qu'on était plusieurs personnes militants LGBTI+, des personnes non-binaires et qui n'étaient pas musulmans ou musulmanes, qui se sont retrouvés à la mosquée le soir pour faire la rupture du jeûne. Et du coup, il y avait des femmes d'un côté et les hommes de l'autre, alors qu'on était avec une délégation de personnes non-binaires qui ne s'identifient pas dans cette binarité du genre. Et du coup, ça nous pousse à nous poser plein de questions. Mais il se trouve que, hasard du calendrier, le lendemain, donc on a eu plein de discussions hyper intéressantes ce soir-là à la mosquée. Le lendemain, c'était la Pride de Strasbourg. Et il y a plein de personnes qui étaient présentes à cette rupture du jeûne à la mosquée qui nous ont accompagnés le lendemain par curiosité, plus à cette marge de fierté. Et ça a fait vraiment une rencontre entre deux mondes qui ne se croisent pas assez, je trouve, et qui, là aussi, me donne beaucoup d'espoir dans le monde de demain.
Waouh, ça me colle des frissons. C'est vrai que ce sont deux moments très forts. Alors justement, vous parliez un peu des avancées et en tant que responsable des thématiques LGBTQIA+, chez Amnesty International France, Est-ce qu'il y a des avancées récentes dont vous êtes vraiment fier et quels sont les défis majeurs qui restent à relever ?
Je pense que dans les avancées récentes dont on peut être fier, c'est de faire comprendre que les droits des personnes LGBTI+, sont pas des droits nouveaux ou des droits spécifiques, mais font bien partie intégrante des droits humains. Et le fait que ce soit des combats qui soient portés aussi par des organisations généralistes, des organisations de défense des droits humains comme Amnesty et d'autres, a vraiment permis de faire comprendre qu'on ne demandait pas un traitement différent, mais bien le même traitement que tous et toutes, qu'on parle de liberté d'expression, de non-discrimination, de protection contre la violence, du droit de mener une vie familiale normale. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où on comprend que les droits des personnes LGBTI+ font partie des droits humains, mais dans les défis majeurs qui nous restent à relever, c'est que vraiment on assiste aujourd'hui, malgré toutes les avancées, malgré toutes les victoires depuis ces 50 dernières années, on assiste aujourd'hui vraiment à des attaques grandissantes, un vrai recul des organisations d'opposants à l'égalité qui s'organisent de plus en plus et qui sont extrêmement bien financées contre les personnes LGBTI+, et plus largement contre même tous les mécanismes et l'architecture des droits humains qu'on a mis en place ces dernières années. Et donc le combat est loin d'être terminé, et on a souvent peut-être eu la fausse impression qu'après 2013, en France en tout cas, et après l'obtention du mariage, il y avait certaines étapes qui avaient été franchies, mais il en reste encore plein d'autres en France et dans le monde à conquérir.
Ouais, alors effectivement, j'entends bien, dans le monde on voit bien ce qui se passe outre-Atlantique sur la diversité et l'inclusion en général, et surtout l'espèce de haine qui monte à l'égard des personnes LGBTQIA+ et surtout des personnes trans. Et alors justement, vous, dans votre métier de juriste et en même temps activiste, comment est-ce que vous parvenez à concilier vos responsabilités au Conseil d'État et votre militantisme actif pour les droits humains LGBTQIA+ ?
C'est vrai que c'est pas de tout repos, que c'est parfois difficile, mais j'accorde vraiment une grande importance à prendre soin de mon bien-être et ma santé mentale. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense vraiment, je suis convaincu que le burn-out militant, l'épuisement, c'est véritablement un frein à la justice sociale, et que j'ai vu beaucoup de personnes militantes s'effondrer, arrêter de militer. Et donc je pense qu'il faut vraiment chercher chacun, chacune, son propre équilibre et ne dire non quand on n'est pas disponible, quand la charge de travail est trop lourde. Et voilà, moi, ce qui m'a permis de trouver un équilibre, je pense, c'est la pratique récurrente d'un sport, ce qui surcharge mes journées et en même temps me fait un bien fou et me vide quand même pas mal la tête, et puisque j'ai vraiment cette volonté de continuer à militer toute ma vie. Je pense à des degrés différents, je pourrais pas toujours être engagé à haut niveau comme je le fais aujourd'hui, mais et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une carrière et de s'engager de manière aussi intense pour les droits des personnes LGBTI+, mais je pense qu'il faut s'accorder aussi beaucoup de bienveillance et se dire qu'il y a des périodes dans la vie où on est plus engagé que d'autres. Moi, en tout cas, j'ai vraiment cette volonté d'essayer de voir le temps long, encore une fois. Mais je vois bien qu'à Amnesty, il y a vraiment une grande proportion de jeunes, très jeunes, qui sont très actifs dans le monde associatif et des retraités, et que l'entre-deux, c'est très difficile d'allier une carrière professionnelle et un engagement, mais voilà, il faut s'accorder de la bienveillance et du temps aussi pour soi, pour parvenir à concilier tout ça.
En tout cas, ce qui est super encourageant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a des jeunes qui s'engagent, il n'y a pas que des retraités, il ne faut pas croire, il y a aussi des jeunes justement qui s'engagent dans des associations, dans du militantisme, dans du bénévolat. Plus largement, et en parlant des jeunes et de votre emploi du temps déjà très très chargé, on sait combien les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être chronophages. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y avait aussi beaucoup de choses sur les réseaux qui allaient contre un peu les droits humains, ou en tout cas toutes les avancées. Tout le monde peut s'exprimer ouvertement sur les réseaux. Tout le monde se pense ou se croit ou s'improvise journaliste, ou en tout cas partage son avis, et parfois des avis durs, forts. Comment vous percevez le rôle des réseaux sociaux et celui des médias dans les débats justement sur les droits humains ?
Je pense qu'effectivement, on vit une période qui est assez compliquée avec une dérégulation des réseaux sociaux. Et même dans les médias, on a souvent des débats pour ou contre, je sais pas, la transidentité, comme si l'existence des personnes pouvait être sujette à débat. Et effectivement, on n'arrive pas à dépasser ce stade de... Et oui, il faut débattre. Et oui, on a le droit de pas être d'accord, mais on devrait pas être en désaccord sur l'existence des personnes, mais plutôt sur la meilleure manière de protéger les personnes, de protéger les droits, de trouver un équilibre entre chacun et chacune. Et donc oui, c'est un contexte difficile. Après, les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit merveilleux pour apprendre, pour créer des liens, pour faire communauté, et notamment pour les personnes LGBTI+, de rompre l'isolement que beaucoup de personnes LGBTI ressentent, voir qu'on peut se connecter avec des personnes de la même orientation sexuelle, de la même identité de genre, donc on peut discuter, échanger. Enfin, ça peut aussi avoir plein de conséquences positives, et dans le même temps, ça a aussi tous les effets toxiques inverses, encore plus dans le contexte actuel avec X et Meta, qui tournent véritablement les yeux à leurs engagements en matière de droits humains et qui créent vraiment des contextes hostiles, qui légitiment des discours de haine, qui vont à l'inverse renvoyer au placard et dans l'isolement de nombreuses personnes LGBTI et confrontées à des discours de haine en toute impunité sur ces réseaux.
Oui, toute la complexité des choses. Alors, on l'évoquait dans votre présentation, vous avez été reconnu rôle modèle LGBT+, leader par l'autre cercle. Vous avez eu aussi une reconnaissance par le magazine Têtu. Est-ce que ça a influencé votre manière de militer ou est-ce que ça a légitimé votre façon d'inspirer les autres? Comment ça s'est passé l'après?
Ça fait toujours plaisir, hein, en termes d'ego aussi, même d'être reconnu un peu dans ce qu'on fait, mais non, c'est vrai que sur la reconnaissance de l'autre cercle dans le milieu professionnel, ce que ça a changé, c'est aussi le rôle des syndicats et dans la lutte pour les droits des personnes LGBTI+, et de même le rôle des employés, de faire comprendre qu'on est dans une société qui véhicule des stéréotypes et des préjugés négatifs à l'encontre des personnes LGBTI+, mais à l'encontre de tous les critères de discrimination de manière large, et qu'il y a une vraie responsabilité dans l'éducation. Mais comme cette éducation aujourd'hui à la vie affective, à la sexualité, à la diversité est pas faite ou insuffisante, il y a une vraie responsabilité aussi des employeurs de mettre en place des formations pour mieux comprendre les identités LGBTI+, et mieux comprendre les discriminations au sens large. Et donc je pense que ça a permis d'accroître le champ des possibles. Et voilà, je suis persuadé qu'aujourd'hui, quand on est dans cette société qui véhicule autant de préjugés, de stéréotypes, on ne peut pas seul s'en affranchir. Et donc, il faut aussi se poser et comprendre qu'on est tous empreints de stéréotypes et de préjugés. Et déjà, en prendre conscience, ce serait déjà une première étape. Et que le rôle de l'employeur, c'est avant tout de protéger ses agents et ses agentes. Et que chaque employeur devrait mettre en place aussi des formations pour mieux comprendre et lutter contre ces discriminations.
C'est hyper encourageant. J'aime beaucoup. Du coup, ça reboucle avec question que j'avais envie de vous poser en conclusion. Vous parliez de l'entreprise et son rôle de protection de ses collaborateurs, un petit peu un rôle d'éducation aussi quelque part, qui commence dès l'enfance, j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on se retrouve en classe avec un petit camarade qui a deux papas ou qui a deux mamans, bon, bah, il a deux papas et il a deux mamans, et so what? Et ça, c'est pas encore complètement dedans. Donc, si vous pouviez rêver à un monde idéal, à quoi ça ressemblerait pour vous?
Ce serait l'idéal d'un monde où la vision d'Amnesty International, c'est la vision d'un monde où chacun, chacune, chaque personne peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les textes internationaux relatifs aux droits humains. Donc ce serait ça, un monde dans lequel les dirigeants, les dirigeantes tiennent leurs promesses, respectent le droit international des droits humains et sont tenus de rendre des comptes. Ce serait ça, la vision du monde idéal.
Merci beaucoup Sébastien, on en revient au droit. Finalement, les droits de l'homme sont encore un petit peu bafoués alors qu'ils ont... juste un petit peu quelques années. Et les droits humains, comme vous dites, et j'aime beaucoup cette notion d'humanité. Merci beaucoup, Sébastien Tuller, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous.
Et voilà, vous étiez sur la grande interview de la radio Queerazio. J'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, je ne doute pas que ça vous ait inspiré, apporté des billes, apporté l'envie de s'ouvrir, de rencontrer. Vous pouvez retrouver Sébastien Tuller sur ses réseaux, Amnesty International France également. N'hésitez pas. Et puis, la fondation Queerazio est toujours là aussi pour vous écouter, pour vous entendre, pour vous accompagner. Venez nous rejoindre, venez vous connecter avec Christophe Salant, son fondateur. On sera ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine interview.